Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera ce week-end. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Quand on est danseur, on est élève jusqu'à la fin de ses jours. En fait, jusqu'au dernier jour, on apprend quelque chose de nouveau. Et ça demande une énergie absolument colossale. Et je suis heureux d'apprendre ça, je suis content comme tout.
Sa personnalité flamboyante et son charisme l'avaient fait connaître bien au-delà du monde des ballets. Le danseur Patrick Dupont est décédé aujourd'hui. La disparition d'une étoile qui a illuminé et modernisé son art. Pas de cadeau pour le Pas-de-Calais. Le premier des quatre week-ends de confinement a débuté ce soir. Nous irons à Lens où les commerçants ont baissé le rideau à regret. 250 000 injections ces dernières 24 heures. La campagne vaccinale s'accélère partout, sauf dans les hôpitaux, soignants réticents qui ont reçu un courrier d'Olivier Véran. Que se taisent les armes, les premiers mots du pape François à son arrivée sur le sol irakien. Déplacement à haut risque mais fort en symbole. Nous serons à Bagdad dans ce journal. Au sommaire également, les moteurs diesel n'ont plus la cote. L'équipementier Bosch supprime 750 emplois dans son usine de Rodez. Le lancement de la collecte nationale des Restos du Cœur, plus importante que jamais. Et le foot, 16e de finale de la Coupe de France. Les amateurs d'Aubagne affrontent en ce moment les pros de Toulouse. Stéphane Frangy.
Et c'est le TFC qui mène au score par la plus petite des marges, 1-0.
A tout de suite Stéphane. La météo, soleil demain sur la moitié nord, mais temps instable dans le sud avec brouillard et averse au programme, nous dira Anissa Dadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,82% à 5782 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes, le train à hydrogène débarque sur nos rails, première commande en France. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Yannick Leguet en charge de l'hydrogène chez Alstom. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un physique de jeune premier, un regard de chat et une grâce tout aussi féline sur les planches. Patrick Dupont nous a donc quitté aujourd'hui. L'ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris est décédé d'une maladie foudroyante à seulement 61 ans. Personnalité fantasque, volontiers indiscipliné et frondeur, le jeune Patrick Dupont avait le don d'exaspérer ses professeurs, mais il avait aussi le don absolu de la danse et un charisme qui ont séduit les plus grands chorégraphes, Diane Chenouda.
Oui, l'enfant terrible de la danse a travaillé avec les plus grands noms. Hein. Nourrieff, Béjart, Roland Petit, danseur surdoué. Patrick Dupont passe par la voie classique, l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et puis à 21 ans, c'est la consécration. Il est nommé danseur étoile. Son physique de jeune premier, sa personnalité flamboyante, son style félin font très vite de lui une star de la danse. Béjart lui offre un de ses plus grands rôles de danseur travesti dans Salomé en 86. Puis il devient patron de la danse à l'Opéra de Paris, mais ça se termine mal. Il sera licencié pour indiscipline. Commence alors une période noire pour Patrick Dupont. En 2000, il est victime d'un grave accident de la route qui a failli lui coûter la vie. Puis il revient après 10 ans d'absence, l'histoire d'une renaissance.
On m'avait dit marcher peut-être, mais danser jamais. Et ma première réaction, c'était de dire non. Non, je n'accepte pas. J'ai demandé de la musique, on m'a apporté un petit poste de radio. C'était le Boléro de Ravel, un clin d'œil de Maurice Béjart dans ma chambre d'hôpital. Et j'ai su à ce moment-là que j'allais redanser en fait. C'est magique, c'est l'histoire d'un rêve.
À 52 ans, Patrick Dupont redanse avec la même flamme qu'à 20 ans. Il joue dans une comédie musicale, un air de Paris, il touche à la télé-réalité, devient juré dans l'émission Danse avec les stars en 2018. Et ces dernières années, il s'était installé à Soissons, il montait des spectacles de danse classique et orientale. Aujourd'hui, a déclaré celle qui travaillait avec lui, il s'est envolé pour danser avec les étoiles.
Merci Diane Chenouda. Surdoué, excessif, flamboyant, voilà les mots qui reviennent le plus au sujet de Patrick Dupont. Son amie, l'ancienne danseuse étoile Marie-Agnès Gillot, rajoute révolutionnaire et généreux.
Patrick Dupont, ça a d'abord été mon petit père. Il m'avait pris, c'est lui qui m'a fait rentrer dans la compagnie de l'Opéra de Paris. Puis après, il m'avait pris sous son aile et j'ai fait les premiers galas, j'ai fait tout le. C'est un pan de ma vie qui s'efface avec lui. C'était le plus grand danseur français. On n'en avait pas deux comme ça. C'était une star, quoi. En fait, il a apporté la modernité. Il a ouvert la danse, le contemporain. C'était un interprète favori de Béjart. On est passé du Moyen-Âge à la modernité, quoi. En fait, j'arrive pas encore à le croire et à le penser. Parce que j'avais encore des projets avec Patrick d'aller enseigner dans son école. Et, donc, j'arrive pas du tout c'était quelqu'un qui était resté proche de moi, qui m'appelait alors qu'il vivait à Bordeaux. Donc c'est hyper bizarre parce que je n'arrive pas à visualiser ce manque dans ma vie pour l'instant.
L'émotion de Marie-Agnès Gillot au micro d'Angèle Châtelier pour Europe 1.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Et de trois territoires sont désormais soumis au couvre-feu le week-end. Les agglomérations de Nice, de Dunkerque et depuis ce soir le département du Pas-de-Calais. Interdiction de sortir jusqu'à lundi matin, sauf dérogation au motif impérieux. À Lens, habitants et commerçants accusent le coup, comme l'a constaté notre correspondant Maximilien Carlier.
Le rideau des boutiques se baisse pour deux jours. Les rues sont désormais quasi vides. Rien à voir avec l'afflux de Lensois cet après-midi. Il y a eu du monde, parfois des files d'attente devant les magasins. On a vu des sacs remplis dans les mains des habitants.
Là, on en profite une dernière fois avant le confinement le week-end. Et on fait un petit tour dans Lens et pour s'amuser une dernière fois.
Prendre l'air avant de rester à la maison. Bon, c'était un peu moins la fête du côté des commerçants, vous imaginez. Ils vont fermer chaque fin de semaine pendant un mois.
4 week-ends, c'est énorme. Le mois de mars, c'est là où la collection elle commence à rentrer, les beaux jours qui commencent à arriver. C'est là où on travaille plus ou moins le mieux, en entrée de collection. Là, bah, disons que ça nous freine énormément, moralement, psychologiquement. C'est difficile.
Et il faut à nouveau s'adapter.
On doit s'organiser. Normalement, moi, je suis fermée le lundi pour aller me fournir. Et puis là, bah, du coup, qu'on est fermé le samedi, je vais me fournir le samedi et j'ouvre le lundi.
Mais est-ce que ça compensera les pertes liées au confinement ? Non, répondent ces commerçants lensois qui craignent en plus de voir leur clientèle partir à Douai ou à Lille, dans le Nord.
Maximilien Carlier à Lens, dans le Pas-de-Calais, où 10 000 doses supplémentaires ont été allouées. Vaccination qui s'accélère. Près de 250 000 Français ont reçu une injection ces dernières 24 heures. Un record et une question. Combien de soignants dans le lot ? Seulement 30% des personnels des établissements de santé sont vaccinés contre le virus. Ils n'ont pas l'obligation de le faire, pas encore, même si le gouvernement a clairement laissé entendre que cela pourrait changer. Mais avant d'en arriver là, Olivier Véran veut convaincre les réticents. Le ministre leur a envoyé ce soir une lettre, Mathieu Charrier.
Oui, cette lettre, elle fait une vingtaine de lignes. Les mots sont très clairs. Après un premier paragraphe pour remercier les professionnels de santé mobilisés sans relâche, dit Olivier Véran, face à la plus grande pandémie de l'histoire contemporaine, le ministre de la Santé rentre dans le dur. Il leur rappelle que seulement 30% d'entre eux dans les établissements de santé sont vaccinés, 40% dans les EHPAD. Un chiffre encourageant, mais qui progresse trop peu, selon Olivier Véran, alors que les stocks de vaccins AstraZeneca sont là. Il y a ensuite cette injonction, je vous le demande pour vous-même, votre entourage, les Français, si vous n'êtes pas encore vaccinés, faites-le rapidement, il en va de notre sécurité collective. Le message est clair, le ministre ne menace pas encore de rendre cette vaccination pour les soignants obligatoire, même s'il n'a pas fermé la porte à cette éventualité. Je vous rappelle que le Covid est devenu la première maladie nosocomiale à l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a des gens hospitalisés pour d'autres pathologies et qui ressortent avec le Covid. Olivier Véran signe sa lettre bien confraternellement, soulignant au passage que lui-même est médecin. Et que vous vous en rappelez, il s'est fait vacciner.
Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1. Un deuxième suspect arrêté dans l'enquête sur la violente agression à Reims dont a été victime samedi dernier un photojournaliste du quotidien L'Union. L'homme s'est rendu à la police cet après-midi. Un premier individu de 21 ans avait été interpellé en début de semaine. Mis en examen pour tentative de meurtre et écroué. La victime, quant à elle, est toujours dans un état très préoccupant. C'est un déplacement historique qui a commencé à la mi-journée et qui va se poursuivre tout le week-end. Le pape François foule le sol irakien, une première pour un souverain pontife. Historique donc et symbolique, car si l'Irak est un pays à majorité musulmane, il est aussi considéré comme l'un des berceaux du christianisme. Le pape François a d'abord rencontré les responsables politiques. Il s'est ensuite rendu dans la cathédrale de Bagdad, théâtre il y a 10 ans d'un attentat contre les chrétiens d'Orient. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes notre envoyé spécial en Irak.
Oui, c'est une visite en forme d'hommage aux victimes du pire attentat antichrétien du pays. 48 personnes tuées en pleine messe. Cathédrale qui sonnait un peu creux car une poignée de personnes a été choisie pour assister à cette cérémonie. Ce n'est pas la sécurité qui est en cause, mais la pandémie. Quelques minutes plus tôt, le pape François donnait le ton de sa visite.
Après une crise, reconstruire ne suffit pas. Il faut s'appliquer à bien le faire pour que tout le monde ait une vie digne. On ne sort pas tous égaux d'une crise. On en sort soit meilleur, soit plus mauvais. Mettons fin à la violence, mettons fin aux extrémismes.
Sur son trajet, quelques fidèles ont bravé le confinement pour l'apercevoir. Un bref instant passé devant eux dans une berline noire, seule une main dépasse. Mais ça suffit pour réjouir Mariam qui a suivi la journée devant sa télé.
Je l'ai vu arriver et pour moi je considère que c'est un miracle qu'il soit là avec nous en Irak. Il y a quelques semaines encore, c'était impensable d'imaginer qu'il puisse venir jusqu'ici. Cette fois, ça y est.
Ça y est, trois jours sur les traces d'Abraham, le patriarche des trois grandes religions monothéistes, des traces que François dit vouloir suivre comme un pénitent qui vient demander pardon.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Retour en France avec ce choc à Rodez après l'annonce d'un plan de suppression d'emplois à l'usine Bosch. L'équipementier veut supprimer 750 emplois d'ici 2025 sur les 1250 que compte le site. C'est colossal. Et c'est la chute des ventes de voitures diesel qui explique en grande partie cette décision du groupe, Olivier Samin.
Oui, les Européens se détournent des véhicules diesel et l'usine Bosch de Rodez en subit le contre-coup. Entre 2018 et 2020, la production d'injecteurs diesel a été divisée par deux à Rodez. Et la situation depuis s'est aggravée avec la crise mondiale et l'épidémie de Covid. Voilà comment la direction du groupe justifie l'annonce qu'elle a faite ce matin aux représentants du personnel. Mais le groupe Bosch affirme sa volonté de maintenir l'activité industrielle sur le site et mise pour cela sur la diversification qui a été amorcée il y a deux ans. Il n'empêche, les syndicats parlent ce soir de trahison. En 2018, trois d'entre eux avaient signé un accord de transition prévoyant des efforts des salariés sur leurs jours RTT et leurs primes d'intéressement, en contrepartie de plusieurs millions d'euros d'investissement sur le site. Pour Jean-Pierre Cabrol, délégué sud de l'usine, les promesses n'ont pas été tenues.
C'est une trahison parce que, avec tous les engagements que les salariés avaient pris pour faire des efforts et donner un avenir à ce site, on s'était donné du temps et on voit que la direction nous abandonne et on est vraiment écœurés là.
Pour les syndicats, c'est tout un pan du savoir-faire de cette usine, la plus grosse du département, qui est vouée à disparaître.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. La crise économique, pas pour tout le monde. L'Irlande a connu un bond de 3,4% de son produit intérieur brut l'année passée. Et ce, grâce à l'activité de nombreuses multinationales implantées sur l'île, attirées par la fiscalité attractive. Sans ces grands groupes, le PIB irlandais se serait contracté de 5,4% en 2020. Si un retour de la croissance est espéré et même anticipé cette année. Des millions de Français n'ont pas le luxe d'attendre des jours meilleurs. Il faut bien manger. Et les files d'attente ne cessent de s'allonger devant les banques alimentaires. Voilà pourquoi le lancement de la collecte nationale des Restos du Cœur revêt cette année une importance toute particulière. Depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, les 75 000 bénévoles de l'association font appel à la générosité des Français dans les supermarchés. Reportage Zoé Pallier.
Voilà, je vous donne un petit pois, les lentilles, et haricots verts. Je vous aide un petit peu. Merci beaucoup.
Une fois passée en caisse, Zora laisse une partie de son sac de course dans les bras d'un bénévole en chasuble rose, désireuse de soulager quelques victimes de la crise.
Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver à nous aussi, de se retrouver à la rue, de ne pas manger. Le jour au lendemain, on peut perdre tout avec toute cette période noire. Pour aider comme on peut, voilà.
Conserve de légumes, briques de lait, produits d'hygiène, les cartons se remplissent vite, bien plus vite que l'année dernière, se félicite Michel, bénévole.
Et ça, c'est le premier carton de biscuits. Mais on doit être au cinquième carton de féculents. Ça marche très bien. Les gens sont très généreux.
Une solidarité qui rassure Patrice Douret, président des Restos du Cœur.
Cette année, nous avons tout à craindre d'avoir un nombre beaucoup plus important de personnes accueillies. Ce week-end, c'est le week-end où il faut se préparer à faire face à cette augmentation des besoins à venir.
Son objectif, que des repas soient distribués jusqu'à l'été. Il faut pour cela dépasser les 7000 tonnes de produits collectés.
Merci pour les Restos du Cœur.
Zoé Pallier à Paris pour Europe 1. On termine avec le foot et ce match que l'on suit ce soir sur Europe 1. Aubagne-Toulouse, 16e de finale de la Coupe de France avec des Toulousains qui commencent à prendre le large, Stéphane Frangy.
Oui, ça y est, ils ont fait le break. 2-0 l'ouverture du score en première période. Dès la 9e minute de jeu par Manu Koné, très réaliste le TFC et qui double la mise à la 53e par Nathan Ngoumou. Il y a deux catégories d'écart entre ces deux équipes. Toulouse qui est pensionnaire de Ligue 2, Aubagne qui est pensionnaire de National 2, mais pas de classe d'écart sur le terrain. On a des Aubagnais qui sont vraiment valeureux, qui donnent tout. Ce qui fait la différence, ce sont des petites choses. Le réalisme surtout qui permet à Toulouse de mener 2-0 à une demi-heure du terme.
Merci beaucoup Stéphane Frangier en direct de Martigues où se joue cette rencontre. On retrouvera Stéphane à la fin de cette édition. La météo, Anissa Haddadi, demain ce sera agréable au nord mais ça va se dégrader dans le sud.
Oui, on va commencer par les mauvaises nouvelles si vous voulez bien. Julien, avec du Poitou-Charron jusqu'à la Bourgogne, quelques nuages encore qui circulent tout au long de la journée. Demain, dans le sud-ouest, des Pyrénées jusqu'à l'Auvergne, dans les Alpes et jusqu'en Provence. Les nuages sont très nombreux demain et les averses sont très fréquentes. Dans les Alpes et les Pyrénées, il neige encore demain, mais à plus haute altitude, à partir de 1500 mètres d'altitude. Au nord de la Loire, et c'est là que sont les bonnes nouvelles, de la Bretagne aux Ardennes, en passant par la Normandie, les Hauts-de-France et la région parisienne, le temps est lumineux, ensoleillé, mais attention, le froid persiste au nord demain, puisque la bise, qui souffle depuis aujourd'hui, va continuer demain. Nous aurons donc des températures négatives le matin, moins 4 à Épinal, moins 3 à Nancy, moins 2 à Strasbourg, moins 1 à Lille et Belfort, 0 à Paris, 2 à Bordeaux, 4 à Lyon et 8 à Nice le matin. Et puis au meilleur de la journée, comptez 7 à 11 degrés sur la moitié nord, 11 à 14 dans le sud-ouest et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec ce soir Claire Lemaître de boursier.com suivi de l'interview écho. Le train à hydrogène débarque sur nos rails, première commande en France. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Yannick Leguet en charge de l'hydrogène chez Alstom. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine la semaine sur une belle hausse. Les marchés ont été agréablement surpris par les bons chiffres de l'emploi américain.
De bons chiffres qui font monter le Dow Jones de 1,86%, 31 497 points, plus 1,55% pour le Nasdaq à 12 920 points. 379 000 emplois ont été créés aux États-Unis en février. Beaucoup de postes dans les bars et les restaurants grâce à l'assouplissement des règles sanitaires dans le pays. C'est une surprise et ça redonne de la hauteur aux valeurs technologiques très chahutées en ce moment. Apple monte de 1%, Amazon plus 0,8%, Facebook plus 2,6%, Tesla perd quand même 3,9%. Ça monte aussi pour Gap. Là aussi, le groupe table sur une embellie pour l'économie avec une hausse de ses ventes de vêtements et le titre grimpe de 7,6%. Un mot du pétrole en forte hausse également, plus 3,7%, 66 $ le baril à New York.
Le marché parisien, quant à lui, marque une pause après 4 séances de progression et il repasse sous le seuil symbolique des 5800 points.
Le CAC 40 perd 0,82%, 5782 points. Malgré ce coup de faiblesse, le bilan hebdomadaire est positif puisque le CAC a gagné 1,4%. Séance compliquée pour l'aéronautique et les voyages. Airbus perd 4,9%, moins 6% pour Air France KLM. Dassault Aviation chute de 3%, l'avionneur n'a pas été épargné par la crise, comme le montrent ses résultats financiers annuels.
Et le secteur pétrolier s'en sort nettement mieux ce soir, dopé par la hausse du prix du baril de brut que vous nous racontiez tout à l'heure.
Voilà, Total profite de cette hausse des cours et gagne 1%, forte hausse également de 3,9% pour CGG. Le groupe parapétrolier prévoit pour cette année une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires. C'est du rouge en Europe pour terminer la semaine. Londres perd 1%, moins 0,3% pour Francfort, Milan moins 0,5%, Madrid moins 0,8%, moins 0,8% aussi à Paris pour le CAC 40 qui clôture à 5782 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com et à lundi Claire. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Yannick Leguet.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes en charge de la branche hydrogène chez Alstom en France. Et justement, si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est qu'Alstom a vendu ses tout premiers trains à hydrogène en France. On parle de 3 TER à hydrogène. C'est donc vous qui allez les produire. 3 TER sur 14 au total. 4 régions sont concernées. Bourgogne-Franche-Comté qui signe cette première commande. Mais il y aura aussi derrière Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie. Est-ce que ça y est, on peut dire que c'est enfin parti pour le train à hydrogène en France ?
Oui, tout à fait. Donc on en est déjà très très fiers et on remercie énormément la région Bourgogne-Franche-Comté et on va dire les 3 autres régions. C'est un ensemble de 14 trains au total qui vont faire l'objet d'une commande de trains. trains à hydrogène et également équipés de Thora pour pouvoir rouler sous caténaire également, ce qu'on appelle des trains bimodes hydrogène, qui va être une première mondiale.
Une première mondiale, mais il y a des trains déjà qui roulent à hydrogène en Allemagne. On était un peu en retard, alors que c'est impressionnant. C'est vous, Alstom, entreprise française, qui avez inventé ce train à hydrogène. Pourquoi ça a pris tant de temps chez nous en France ?
Ce train, le train hydrogène qui a été mis en service commercial dès septembre 2018 en Allemagne, était un train qui fonctionne, qui a fait l'objet de commandes en Allemagne, qui était un train purement hydrogène. D'accord.
Celui, là, l'intérêt, c'est qu'il a plusieurs modes d'énergie.
Exactement. C'est-à-dire que quand il va rouler sous caténaire, il va pouvoir monter son pantographe et fonctionner en mode électrique, purement électrique, donc ce qui est quand même le mode le plus économique. Hein. Et effectivement, quand ce train va arriver sur une ligne non électrifiée, il va pouvoir passer en mode hydrogène et continuer son trajet sans avoir besoin d'électrification, mais tout en restant du zéro émission, puisque on va le faire fonctionner avec de l'hydrogène vert décarboné.
De façon concrète, quand est-ce qu'on va avoir le tout premier train roulé en exploitation normale?
Alors, le premier train sortira pour ses tours de roue en 2023, c'est-à-dire dans un peu plus de deux ans. Il subira ensuite tout un processus d'homologation pour pouvoir autoriser la circulation avec passagers, donc ça c'est du réglementaire. Et on va dire 2024, on aura des circulations avec passagers dans ces trains.
Cette première commande est très importante pour vous, parce que ça va permettre de le vendre un petit peu partout dans le monde maintenant, parce que tout le monde est à la recherche de ce genre de système.
Oui, on a effectivement débuté, vous l'avez dit tout à l'heure, dès septembre 2018, avec une première circulation de trains hydrogène, ce qu'on appelle le E-Lint en Allemagne. Depuis, 41 de ces trains ont été commandés en Allemagne. Récemment, nous avons eu une commande en Italie également de trains hydrogène. La France, premier train bimode électrique hydrogène. Et derrière, effectivement, d'autres pays, le Danemark, l'Autriche, la Belgique, l'Angleterre, le Canada, bref, beaucoup de pays aujourd'hui comptent sur le train, bien évidemment pour assurer la transition écologique de la mobilité en apportant une vraie solution alternative au transport diesel.
Voilà, parce que là, ce n'est pas nos fameux TGV qu'on remplace, ce sont des motrices diesel de TER, donc c'est en cela où c'est très intéressant d'un point de vue écologique.
Tout à fait. Les trains qui vont avoir besoin d'une forte fréquentation et d'une forte densité de trafic vont justifier le coût d'une électrification de la ligne. C'est ce qui est effectivement de plus pertinent. Par contre, certaines lignes n'ayant pas forcément un trafic très important, le coût d'électrification pourrait devenir assez prohibitif au regard du nombre de circulations. Et là, effectivement, on va rechercher des modes de transport sans caténaire, mais en essayant de trouver du zéro émission. Donc là, on n'a pas aujourd'hui on explore, on va dire, chez Alstom, différentes solutions. La première, c'est la batterie, l'utilisation de batterie. Mais la batterie, comme pour la voiture, va avoir ses limites en termes d'autonomie. Et un train, c'est quand même un mobile qui est quand même très lourd, qui peut aller vite et avoir des fortes déclivités. Et donc l'hydrogène va apporter cette technologie nouvelle qui va permettre d'avoir de la puissance et de l'énergie embarquée pour pouvoir faire des missions longues dans des conditions complexes. Et donc être une vraie alternative au diesel pour le transport et la mobilité.
Mais est-ce qu'on est sûr qu'en 2024, ce sera de l'hydrogène propre? Parce qu'aujourd'hui, on a de l'hydrogène en France, Air Liquide est par exemple le premier producteur mondial d'hydrogène, mais on ne sait pas encore le produire de façon totalement propre. Là, ce sera de l'hydrogène propre?
Oui, tout à fait. L'hydrogène, si vous voulez, aujourd'hui, si on fait un instantané, une photo de la consommation d'hydrogène aujourd'hui dans le monde, 95% de son utilisation a pour but de servir à une industrie pétrochimique. Donc, quelque part, le besoin de verdissement de cet hydrogène, jusqu'à présent, n'était pas forcément fondamental. Aujourd'hui, que nous voyons effectivement l'avenir de la mobilité verte en utilisation d'hydrogène, il est important et fondamental de fabriquer cet hydrogène à partir d'énergies renouvelables et d'électrolyse de l'eau. Et les différents gouvernements européens en particulier ont pour beaucoup mis en place des plans de relance des plans de relance de transition écologique qui vont s'appuyer sur la technologie d'hydrogène et donc vont investir massivement dans le déploiement d'électrolyseurs qui va permettre de mettre à disposition de l'hydrogène vert. Et le train, on sera un des principaux consommateurs.
Une des briques au final,
au moins, au moins dans la phase de démarrage, même si à terme, effectivement, on espère tous que les voitures emboîteront pas et viendront également consommer l'hydrogène vert.
Bien sûr, mais on sait que c'est a priori pour le moment plus simple pour des trains, puisque les trains, c'est plus simple de placer tout ce qui peut être le système de batterie à hydrogène pour ce genre de transport. Ce qui est intéressant en région Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas un hasard si le premier train est signé là. C'est parce que Auxerre a décidé de mettre en place tout un écosystème à hydrogène. Là, on voit aussi que ça bouge fortement en France, du coup.
Exactement. Et c'est un point fondamental que vous pointez, c'est que en fait, le train a cette capacité, c'est que c'est un consommateur massif d'hydrogène. Une voiture va emporter 4 à 6 kilos d'hydrogène, là où un train va emporter à peu près 200 kilos d'hydrogène. D'accord. Et le gros avantage du train, c'est que le train il va rentrer dans son dépôt de maintenance tous les soirs et va avoir des missions régulières tous les jours, 365 jours par an. Et quelque part, pour les fabricants d'hydrogène, ça va être un consommateur extrêmement prédictif, répétable et géolocalisé. C'est-à-dire qu'on sait exactement à quel point il va venir se recharger, ce qui n'est pas forcément le cas d'une voiture. Par contre, ça va permettre de réduire les coûts de production de cet hydrogène vert et d'attirer d'autres consommateurs qui vont être des bus, des flottes de taxis, des flottes de véhicules publics, et donc de lancer cette économie de la mobilité hydrogène de manière beaucoup plus économique que si on n'avait que quelques consommateurs.
Bien sûr, en tout cas, merci pour tous ces détails. Yannick Leguet, je rappelle que vous êtes en charge de la branche hydrogène chez Alstom en France et que c'est vous qui produisez ces fameux trains. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve lundi 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. On vous retrouve également lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, vous allez vous demander pourquoi il y a si peu de femmes dans les instances de direction. Votre invitée, Céline Lazorte, elle avait fondé Litchi avant de revendre l'entreprise. Elle est depuis à la tête d'un réseau pour aider les femmes à entreprendre.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
22h27 sur Europe 1, et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Vaccination des soignants, la piqûre de rappel, titre Libération qui revient sur cette lettre envoyée cet après-midi par Olivier Véran. Lettre dont on vous parlait dans le journal pour inciter les personnels de santé à se faire vacciner car le constat n'est pas glorieux. Le dernier pointage des soignants vaccinés au sein des établissements de l'assistance publique hôpitaux de Paris a servi de détonateur alors que le vaccin est ouvert à tous les personnels de santé depuis le 6 février, l'exemplarité n'est pas vraiment au rendez-vous. 38% des médecins se sont fait vacciner, un chiffre qui tombe à 17% chez les paramédicaux et 18% chez les agents non soignants. D'où cette question, faut-il obliger les soignants à se faire vacciner? Eh bien, elle mérite sérieusement d'être posée cette question. Après tout, les soignants n'ont-ils pas un devoir d'exemplarité, interroge Alexandra Schwarzbrod. Eux connaissent mieux que quiconque les ravages de cette maladie sur la santé physique et mentale, écrit l'éditorialiste, qui avance une explication à cette réticence. Surchargé de travail et sous-payé, baladé par les pouvoirs publics à qui ils réclament en vain des moyens supplémentaires depuis des lustres, les soignants n'ont plus beaucoup de manières de manifester leur ras-le-bol. Ils ne peuvent pas faire grève, ce serait irresponsable dans le contexte actuel. Alors ce bras d'honneur envoyé à l'injonction vaccinale est peut-être une façon de préserver le peu d'espace de liberté qu'il leur reste, conclut l'édito de Libération. Vaccination également à la une du Figaro. Comment rattraper le temps perdu, titre le quotidien, alors que le gouvernement lance ce week-end une vaste opération pour accélérer le rythme des injections. Objectif, 30 millions de Français protégés d'ici l'été. Et pour y arriver, ça passera aussi par les pharmacies. C'est la une du Télégramme. Pharmaciens et sages-femmes sont en effet autorisés à prescrire et injecter les vaccins. Mais si la mesure est effective, il faudra cependant s'armer de patience avant de recevoir une dose, note le quotidien régional. Jean Castex a en effet évoqué hier soir la semaine du 15 mars.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Et juste avant la libre antenne, un dernier point foot. 16e de finale de la Coupe de France. Les amateurs d'Aubagne affrontent les pros de Toulouse. On en est où, Stéphane Frangy?
Ouais, toujours 2-0 pour le TFC. La logique hiérarchique finalement est respectée. Donc entre Toulouse, pensionnaire de Ligue 2, Aubagne, pensionnaire de National 2. Donc deux échelons plus bas. L'ouverture du score du TFC à la première période dès la 10e minute de jeu par Manu Koné, qui s'est retrouvé un petit peu seul dans l'axe. Il a eu le temps d'ajuster sa frappe. Et les Toulousains qui doublent la mise à la 53e par Nathan Ngoumou. Aubagne qui reste quand même très très valeureux. Finalement, ce qui fait la différence, c'est pas grand chose, peut-être plus de réalisme, hein, puisque Aubagne a proposé beaucoup de choses, mais finalement, c'est les derniers petits gestes et les dernières petites choses devant, voilà, qui font la différence pour l'instant ce soir. Et ce Toulouse Football Club qui mène donc par 2-0 face à Aubagne.
Merci beaucoup Stéphane Frangy. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la Libre Antenne qui débute donc dès maintenant.